La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Il manque juste ça. Vous avez déjà dit ou entendu ça? Juste ce papier pour obtenir l'aide, finaliser la vente. Juste un point pour obtenir le diplôme. Juste ce que vous voulez et vous terminez par la finalité souhaitée. Être enfin en paix. Être enfin heureux. Être enfin à l'abri. Être enfin sauvé. C'est le triste refrain de l'humanité qui déclare qu'il lui manque quelque chose pour être ce qu'elle rêve d'être. Qu'on n'est jamais vraiment rassasié. Que ce qui nous comble vraiment, on ne peut jamais l'obtenir par nous-mêmes. Bonjour à tous, chers auditeurs. Je m'appelle Luc, je suis un pasteur de la région toulousaine et j'espère que cette introduction vous a mis l'eau à la bouche. En effet, en Ruth 4, on va vivre l'happy end qu'on attend tous et voir que Dieu répond à ce manque au-delà de toute attente. Place à la parole de Dieu à présent, je lis en version second 21 le chapitre entier de Ruth 4. Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Or, celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit « Approche-toi et assieds-toi ici, toi, un tel. » Il s'approcha et s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit « Asseyez-vous ici !» Ils s'assirent. Puis, il dit à celui qui avait le droit de rachat « Naomi est revenue du pays de Moab et elle vend la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, faisant l'acquisition devant les habitants de la ville et les anciens de mon peuple, si tu veux la racheter, rachète-la. Mais, si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. En effet, il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. » Il répondit, « Je la rachèterai. » Boaz dit, « Le jour où tu achèteras le champ à Naomi, tu l'acquerras aussi de Ruth, la Moabite, la femme du défunt, et tu devras maintenir le nom du défunt sur son héritage. » Celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne peux pas exercer ce droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirai mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas l'exercer. » Autrefois en Israël, pour valider toute affaire relative à un rachat ou à un échange, on retirait sa sandale et on l'a donnée à l'autre. C'était ce geste qui servait d'attestation en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Fais-en l'acquisition pour ton compte » et retira sa sandale. Alors, Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Maclon, et que je l'ai également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Maclon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes deux donné naissance à la communauté d'Israël. Montre ta force dans Éphrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme faire ressembler ta famille à celle de Pérets que Tamar a donnée à Juda. » Boaz épousa Ruth. Elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la lignée de Pérets. Pérets eut pour fils Hetzron, Hetzron eut Ram, Ram eut Aminadab, Aminadab eut pour fils Nachon, Nachon eut Salmon, Salmon eut pour fils Boaz, Boaz eut Obed, Obed eut pour fils Isaïe, et Isaïe eut David. Ici se termine la lecture du texte biblique, donc le plan d'aujourd'hui va logiquement tourner autour de la notion de rachat. On va voir dans un premier temps l'acte officiel de rachat, des versets 1 à 12, les conséquences du rachat, des versets 13 à 22, et on terminera avec notre espoir de rachat. L'acte, les conséquences et l'espoir. Alors on commence donc avec Boaz qui s'active avec détermination dans les deux premiers versets. « Toi, viens, assieds-toi. Vous dix, venez aussi, asseyez-vous. » Et on voit là juste un Boaz déterminé qui, même s'il est pressé, ne néglige pas l'obéissance à la loi. On est aux portes de la ville, il prend des témoins, il n'y aura pas de vice de procédure avec Boaz. Et je me dis que c'est un bel exemple pour nous. Alors que la situation est incertaine, de rester réglo, droit dans nos bottes, inattaquable. Là où, il faut le dire, plusieurs d'entre nous, on serait tenté de trouver des arrangements à la va-vite pour arriver à nos fins. Boaz ne fait pas ça. Et Boaz présente donc l'affaire aux proches parents, en lui demandant de faire un choix au verset 4. Tout se passe pour le mieux jusque-là. Ce moment où la tension est à son comble, car la possibilité que quelqu'un d'autre achète la parcelle de terre est bien présente. Et avouons-le, ça plomberait toute l'histoire. C'est comme un petit peu l'étudiant qui en ce moment a fait ses vœux et qui est 11e sur la liste d'attente pour 10 écoles. Il y a des chances que ça passe. Oui, il y a des chances. Mais regardez comment termine le verset 4. Trois mots. Trois mots qui viennent tout casser dans le projet de Boaz et de Ruth. « Je la rachèterai ». Précisons là qu'il est question de la parcelle de terre. Alors Boaz donne les détails du contrat au verset 5. Et là, il y a un problème. C'est pas juste une parcelle de terre avec une vieille veuve qu'il faut racheter. C'est aussi une veuve moabite avec laquelle il faudra maintenir une descendance. Et c'est un problème car tous les 50 ans en Israël, on remettait les propriétés, les personnes qui appartenaient à leur famille d'origine lors de l'année du jubilé. C'était une remise à zéro générale, si vous voulez. Donc il fallait, pour ce proche parent, maintenir une descendance envers Ruth pour que l'année du jubilé, la parcelle et les personnes qui appartiennent au clan d'Élimélec puissent revenir au clan d'Élimélec afin que son nom et son héritage perdurent en Israël. C'est comme si quelqu'un de fortuné rachète une entreprise avec un contrat pour l'exploiter, disons, pendant 15 ans. Et qu'à la fin de ces 15 ans, un peu comme l'année du jubilé, il y a une restitution. Eh bien, cette personne, en rachetant l'entreprise, doit aussi se marier avec l'ancienne gérante. Et que dans 15 ans, étant l'épouse légitime, elle aura droit à la moitié de ses biens. Vous voyez un petit peu l'idée. L'image n'est pas parfaite, mais en gros, le gars sait qu'il va se faire plumer. Il dit qu'il va détruire son héritage. Son épargne va être dilapidée dans cette affaire et il n'est pas prêt à payer le coût. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ces échanges concernant ce proche rédempteur? Eh bien, tout simplement que ce n'est pas un profil de rédempteur. Il en a le titre, le rôle, mais en réalité, c'est un investisseur qui calcule rapidement le rapport investissement-bénéfice. Et là, le rapport est mauvais. L'investissement est trop risqué. Mais en Boaz, on voit que le profil du vrai rédempteur est là. Il est celui qui est prêt à payer le coût de la rédemption, contrairement à l'investisseur qui ne prendra aucun risque. Alors se pose la question pour chacun de nous, chers auditeurs. Est-ce qu'actuellement, on court après des pseudo-rédempteurs qui sont juste là pour tirer un bénéfice de nous? Ce boulot qui nous donne une image, une position dans la société, mais qui nous licenciera sans sourciller dès qu'on coûtera trop cher ou qu'il y aura un plan de licenciement? Cet homme ou cette jeune femme qui vous fait vous sentir beau, belle, mais qui vous lâchera dès qu'une jeune femme plus jeune et plus jolie ou qu'un jeune homme s'approchera de lui. Cette passion qui vous donne du plaisir à en revendre et dans laquelle vous investissez sans compter temps et argent, mais qui vous fera sentir dépassé lorsque vous n'aurez plus le temps ou plus d'argent à investir dedans. Ou alors, dernière option, on connaît le vrai Rédempteur, Jésus-Christ. Celui qui, à la porte de la ville, 1000 ans après Boaz, a accepté de payer le prix ultime, sa vie, pour accorder à tous les rachetés un héritage éternel qui ne peut pas être détruit, qui ne peut pas être corrompu. Alors voilà ma question. Connais-tu personnellement le vrai Rédempteur? On poursuit notre texte où l'on voit dès le verset 7 et 8 que le proche parent prend vite l'initiative de se libérer de cet engagement et de le laisser à Boaz. Et il lui donne sa sandale, évidemment. Vous saurez quoi faire désormais si lors d'une signature de contrat, il vous manque un stylo. Donnez votre chaussure, votre Birkenstock, je ne sais pas. Mais ça marche a priori. Bref, Boaz accepte évidemment et prend à témoin les anciens qu'il a réunis et tout le peuple. Et solennellement, il répète son engagement des versets 9 à 11, encadré par ceux « Vous en êtes témoins !» Et le peuple répond là aussi solennellement « Nous en sommes témoins !» Encore une fois, tout est fait dans la transparence avec Boaz. C'est un homme droit, irréprochable. Il respecte la loi, il est bon, prévenant, il sait se sacrifier pour manifester de la bonté. Un véritable exemple, n'est-ce pas? Et le peuple va prononcer de manière unanime une bénédiction magnifique pour cet acte de rachat. Mais je vous propose maintenant d'observer dans notre second point quelles sont les conséquences de ce rachat, des versets 13 à 22. Et on débute directement avec un verset, le verset 13, où on a la résolution de tout ce qu'on attendait. Un mariage, un statut pour Ruth et un descendant. Et il faut noter que c'est absolument incroyable tout ce qu'obtient Ruth. C'était inconcevable à la fin du chapitre 1. Ce qui l'attendait, c'était la faim, la solitude, la vulnérabilité et finalement la mort. Voilà la première conséquence du rachat. L'inespéré arrive. C'est un renversement total du chapitre 1. Des chapitres, finalement, que tout oppose dans la structure de ce livre de Ruth. Il y a un parallélisme entre le chapitre 1 et le chapitre 4, le chapitre 2 et le chapitre 3, qui font que, avec des données, ils se répondent. Et regardez avec moi versets 14 et 15. Les femmes de la ville qui bénissent Naomi. Là où, au chapitre 1, on voyait de l'incompréhension de leur côté. Est-ce bien Naomi? Où sont les hommes? Pourquoi elle revient seule et avec cette Moabite à côté? Là où Naomi revenait à vide, au chapitre 1, les femmes disent que l'Éternel ne l'a pas laissée manquer. Là où Naomi avait perdu deux fils, les femmes proclament que Ruth vaut pour Naomi mieux que 7 fils. Là où Naomi était amère, les femmes annoncent que ce fils sera son réconfort, le soutien de sa vieillesse. Elle en aura de la joie. Les femmes ne s'arrêtent pas là. Ce sont elles qui nomment le fils né de Ruth et pourtant elles disent « Un fils est né à Naomi ». Et encore une fois, comme un écho au chapitre 1, le focus est à nouveau mis sur Naomi, qui est passée du vide abyssal et de l'amertume à la joie totale et la plénitude grâce à un Rédempteur. Je répète, elle est passée du vide abyssal à la joie totale, de l'amertume à la plénitude. Tout ça grâce à quoi? Un Rédempteur. Alors regardons un peu plus en détail les conséquences de ce rachat. Déjà pour Ruth, elle obtient un nouveau statut, c'est plus la Moabite, c'est l'épouse de Boaz. Elle devient mère aussi, pourquoi? Parce que verset 13, l'Éternel intervient. Et elle passe de la veuve étrangère à la femme de valeur, épouse d'un homme puissant et bon, reconnu de tous, qui aura une place de choix dans la généalogie du Christ. Pour Naomi, elle est toujours veuve, mais désormais, elle est mamie. Et elle a obtenu un Rédempteur, son petit-fils, Obed. Celle qui était dans la tristesse et le deuil se retrouve sauvée. Le nom de son mari ne disparaîtra pas. Elle est au contraire dans la joie, louée par tout le peuple. Plus question de l'appeler Mara. Elle n'est plus amère. Elle est Naomi, la bénie. Mais il y a aussi une conséquence plus large pour le peuple d'Israël. On se retrouve toujours à l'époque des juges, où il n'y avait pas de roi, où c'était le chaos total. Et ici, notre texte se termine sur la mention de David au verset 17 et au verset 22, comme pour marteler que dans sa grande bonté, Dieu intervient en envoyant un bon roi qui agira selon son cœur et qui préfigurera un bien meilleur roi, Jésus-Christ. Et j'aimerais terminer sur cette note qui nous concerne directement. L'ultime conséquence de ce rachat impacte l'humanité tout entière. Car au travers de cette histoire, Dieu pourvoit pas seulement à une vie comblée pour Ruth, pour Naomi, pas seulement à un descendant Obed, pas seulement à du pain pour le peuple, pas seulement à un roi pour Israël, mais Dieu pourvoit un merveilleux roi rédempteur, Jésus-Christ. Un fils plus important qu'Obed naîtra à Bethléem pour octroyer une rédemption totale de l'humanité en allant, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à la porte de la ville, jusqu'à sacrifier sa vie pour nous offrir à nous, encore aujourd'hui, le repos, la sécurité pour combler ce grand vide dans nos vies et apporter la vie éternelle là où le deuil rythme notre identité depuis Adam et Ève. Quelle glorieuse conséquence, n'est-ce pas? C'est le grand espoir des chrétiens dans le monde. C'est notre espoir de rachat. Et comme je viens de le dire, notre espoir est placé dans un plus grand boise pour des conséquences plus importantes encore. Mais il y a un problème, si on est honnête. Parce que Boaz a bien voulu agir en tant que rédempteur parce que Ruth était reconnue comme une femme de valeur. Or, pour nous, c'est pas vraiment le cas. Qui accepterait d'accomplir ce grand rachat pour nous? Et pour quelle raison? Si on se questionne honnêtement, moi, je ressemble plus souvent à Naomi qu'à Ruth, entêtée à chercher le salut par moi-même et amère quand ça ne marche pas. Et peut-être que pour toi aussi, en ce moment, ta vie ressemble plus à Ruth 1 et que cette perspective te semble absolument folle, mais c'est le message de ce livre. Alors je le répète, Jésus peut racheter et combler celle ou celui qui retourne à lui avec repentance et confiance. Pourquoi? Car il est ce bon rédempteur dont on a tous besoin. Celui qui a le pouvoir de transformer nos vies de deuil comme Naomi en vie de joie éternelle, comme Naomi, mais au chapitre 4. Et je vais lire dans Ésaïe 61, un passage qui parle du Messie que Jésus a lu le concernant dans une synagogue dans le Nouveau Testament. Voici ce qu'il est dit dans Ésaïe 61. « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction, pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. » Voilà ce que ce grand rédempteur veut et peut faire pour chacun de nous. Nous libérer de l'emprise de la mort, devenir ce bon roi qui s'est sacrifié pour nous combler totalement de sa présence. Pour que nos vies à tous, ne soient plus jalonnées de « il ne manque plus que ça pour être », mais qu'on puisse dire avec David « l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien ». Si vous n'avez pas encore fait ce choix, j'aimerais vous encourager à la manière de Boaz à ne pas vous laisser de repos avant de régler cette affaire dès aujourd'hui. Il est réellement question de votre salut, de votre vie. Le repos que Naomi espérait pour ses belles filles auprès d'un mari au chapitre 1 se trouve réellement auprès de Jésus, le mari parfait, l'époux de l'Église. On a commencé ce livre de Ruth dans le deuil, l'amertume et le désespoir, et on le termine dans la joie, le repos et le plein espoir. Et ce changement entre le début et la fin est arrivé grâce à l'intervention de Dieu qui pourvoit à la rédemption. Que toute la gloire lui revienne et que Dieu vous bénisse.
J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce à me ramenant de la mort.